السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأسجل هذا الدرس. تمام. طيب. طيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. تمام. Donc ici, aujourd'hui, un nouveau cours. Continuons dans notre lancée de l'apprentissage des différentes sciences religieuses. Et parmi ces sciences bénéfiques et nobles, la science du usul al-fiqh. Usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence. Cette matière qui est une très noble matière, une noble matière, la matière de Usul Fiqh, cette noble matière que nous avons commencé à étudier. Et cette matière, usul al-fiqh, elle a une importance fondamentale, qu'on ne peut percevoir en règle générale. Il y a des exceptions. Qu'on ne peut percevoir réellement son importance que lorsqu'on est plongé dedans, c'est-à-dire qu'on va étudier cette matière, là on va prendre conscience de l'importance du usul fiqh, de la place, du rang de usul fiqh. Et fil haqiqa, c'est-à-dire en réalité, c'est valable pour toutes les matières. C'est valable pour toutes les matières. Et c'est également valable, donc pour toutes les matières, mais également même dans la vie mondaine. Beaucoup de choses, partie intégrante, ou qui font partie de la vie mondaine. Si vous voulez un exemple, donc moi j'ai toujours, par la grâce d'Allah, j'ai toujours eu cette perception. J'ai toujours eu cette perception. Mais on va quand même prendre l'exemple, c'est la parole d'un ancien, un imam, mais pas parmi les ulama, hein. Une personne qu'on a connue du quartier, qui était un imam, un ancien, parmi les anciens, qui disait, donc voici l'exemple, hein, dans la dunya, qui disait, c'est quand tu seras malade que tu percevras réellement c'est quoi la maladie. Les gens, ils pourront te parler de maladie, les gens, ils pourront te parler de quoi que ce soit, tu auras une perception, tu auras une vision superficielle, en surface, comme ça. Mais réellement, c'est quoi d'être malade? Tu le sauras que quand tu seras malade. Donc c'est un exemple, hein, dans la vie mondaine d'ici-bas. C'est comme ceux qui ont des épreuves, ceux qui se font des épreuves de toutes sortes, hein, et qu'une personne vient et lui dit « Patiente, Ahi, patiente. » Alors c'est un très bon conseil. Patiente, Ahi, patiente, Ahi, c'est un très bon conseil. Mais le ton dans lequel c'est dit, le contexte, on sent que la personne, elle ressent pas ce que toi tu ressens. Elle ressent pas ce que toi tu ressens. Comme celui qui a perdu un enfant, par exemple, on pourra pas venir et lui dire, je comprends, je sais. Non, perds un enfant, ce qu'on ne souhaite à personne. Hein. Perds un enfant et après tu viendras et tu me diras. Donc je vais un peu loin dans la réflexion, mais c'est pour vous dire que les sciences religieuses, et j'ai eu des échos à l'institut, je sais qu'il y en a beaucoup, enfin quelques-uns, qui l'ont dit carrément textuellement, hein, qui nous l'ont dit, hein, qui nous ont dit. On ne voyait pas les sciences religieuses comme ça, et à peu près dans le sens, hein, c'est en goûtant aux sciences religieuses qu'on a vraiment compris c'était quoi les sciences religieuses. Quand tu es extérieur à une chose, tu as une image comme ça, mais quand tu rentres dedans. Je vous donne un dernier exemple, il y a tellement d'exemples. Un dernier exemple. Il y a des gens qui sont spectateurs d'événements sportifs comme la boxe ou comme les combats en cage ou quoi, etc. Et qui ont une vision extérieure. Mais pourquoi tu lui as pas fait cette prise-là? Pourquoi il lui a pas mis ce coup-là? Pourquoi il lui a pas fait comme ça? Pourquoi? Si tu serais à leur place, là tu comprendrais pourquoi il n'a pas réussi à faire ça, pourquoi c'est pas sur commande, c'est pas facile. Non. C'est pas facile. De l'extérieur, les choses sont faciles, mais de l'intérieur, c'est une autre. En fait, on va pas dire facile. De l'extérieur, la vision est autre que celle lorsqu'on est à l'intérieur. Donc voilà, pourquoi tout ça, hein, pourquoi je vous ai raconté tout ça. Conclusion, comme on dit, Al-Khulasa. Al-Khulasa. Conclusion. Ben, les sciences religieuses, comme Usul Fiqh ou autres, il n'y a que si tu te mets dedans, même le tawhid, hein. Oui, j'ai entendu vaguement parler tawhid, je crois ça parle de l'unicité d'Allah. Mais quand tu vas rentrer dans les cours, quand tu vas rentrer dans le détail du tawhid, je pense que vous avez bien compris ce que je veux dire et je pense que vous en avez fait l'expérience, je pense. Je pense. Encore un dernier exemple. Celui-là, c'est le dernier, Inch'Allah Ta'ala, parce qu'il est quand même assez plus significatif. Lorsque nous donnions des cours en France, on avait un groupe de frères. Parmi ces frères, il y avait des convertis. Ils étaient moultazim, hein? Ils étaient moultazim, mashallah, convertis, etc. Et quand ils ont commencé à prendre des cours, alors, il n'y avait pas que des convertis, hein. Même des Maghrébins qui venaient de rentrer dans le manhaj, qui ont commencé à être multazim, à laisser la barbe, mashallah, etc., etc. C'est au bout de quelques cours qu'ils m'ont dit une parole, ils m'ont dit, on dirait on vient de se convertir. En suivant les cours de tawhid, ils m'ont dit, subhanallah, on dirait on vient de se convertir. Parce que l'enseignement des gens de la Sunna, Si c'est le vrai enseignement, le vrai enseignement, quelqu'un qui est parti apprendre à la source, forcément, tu es en train d'apprendre le vrai islam. Bah forcément, ça touche, hein. Forcément, ça a un impact. Mais si tu vas dans des mosquées d'innovateurs où ils apprennent pas le tawhid de cette manière-là, ils apprennent pas le tawhid de cette manière-là, à la méthodologie des salafs, ben, comme un converti une fois m'a dit, un autre converti dans une mosquée où je donnais des cours, j'avais fait un cours sur le tawhid. Il m'a dit, ça fait 10, il est venu me voir à la fin, il m'a dit, Akhi, barakallahu fik, ça fait 10 ans que je suis converti, j'ai jamais entendu ça comme ça. Il m'a dit, la mosquée, grande mosquée d'Ivry, Évry, Évry, hein, il venait d'Évry, je crois. Non, à la Koulihal, c'est à Évry que je donnais les cours. Il m'a dit, la grande mosquée d'Évry, là-bas, ils disent le contraire. Hein. J'ai jamais entendu parler de ça en 10 ans qu'il est converti. Il vient, il s'assit, il entend le vrai tawhid, attention le shirk. Il entend la parole de qui? Bon, la parole d'Allah, de son messager, mais il entend qui? Salih Ali Sheikh. Parce que j'avais ramené un. J'avais fait commencer à leur faire une explication à l'époque. Bah, c'est ce qu'on va faire, Inch'Allah Ta'ala. Eux, ils avaient eu un ou deux cours. J'avais pris ça dans l'explication de Sheikh Salih Ali Sheikh de Kitab al-Tawhid. Après, malheureusement, il y a des autres, il y a des prêcheurs de région parisienne qui étaient jaloux et qui ont fait des problèmes. Qui ont fait des problèmes. Je me suis fait avoir, en fait, Inch'Allah. C'est une bonne expérience. Et j'ai dû arrêter les cours là-bas, de moi-même, hein. De moi-même, hein. Et les frères tout le temps disaient Abdelkarim, 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 et malheureusement, j'ai préféré arrêter là-bas. Et voilà, ce Allahul Musta'an, un prêcheur qui était jaloux et qui a fait des. Qui est connu, hein, qui a fait des problèmes, et j'ai préféré. Arrêtez. Khair, Inch'Allah. Al-Muhim, Usul al-Fiqh. Une matière noble. Cette matière, elle va vous permettre d'accéder à une science ou des sciences inaccessibles. Et des connaissances inaccessibles pour ceux qui n'étudient pas Usul al-Firqa. Donc ce n'est pas dans l'absolu parce qu'en étudiant le Firq, la manière dont on va. Muhim, il y a une divergence entre les savants. Première faïda ici, hein, malgré qu'il y a eu d'autres faïdas hein, depuis le début du cours, mais une faïda ici, c'est que les savants ont divergé. Est-ce que. Les savants ont divergé. Est-ce que Usul al-Fiqh, on doit l'étudier? Ou est-ce que ça suffit d'étudier le Fiqh? Et dans le Fiqh, il y aura Usul al-Fiqh. Ça veut dire en même temps, comme le dit Cheikh Al-Uthaymeen, en même temps que tu vas étudier Usul al-Fiqh, bah, tu vas apprendre. En même temps que tu vas étudier le fiqh, sur le tas, tu vas apprendre usul fiqh. Wallahu a'lam. Il y a une divergence entre les savants. C'est une faïda pour vous. Mais moi, par rapport à mon expérience, c'est une faïda que je vous donne. Hein. En plus, hein, je ne fais pas de tardir ou de prépondérant ou pas prépondérant sur cette question précisément. Mais je vous dis par expérience que c'est mieux d'étudier Usul Fiqh en détail. C'est mieux d'étudier Usul Fiqh et parallèlement le Fiqh. Parce qu'il n'est pas forcé que dans le fiqh, vous allez étudier certaines règles, certaines fawaïd dont on parle, etc. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. En plus, ça dépend de l'enseignant, etc. C'est une matière indépendante chez les ulama, à la jami'a, à l'institut Cheikh Mokbel, par exemple, dans les instituts, à l'université Arabie et autres. C'est une matière qui est étudiée chez les gens de science. Wallahu a'lam. Donc on avait vu dans le cours précédent, on avait vu quoi? On avait vu al-hukm, le jugement, sa définition, sa subdivision. Et wallahu a'lam, j'ai encore une faïda en plus, wallahu a'lam. Étudier usul fiqh, je pense que ça rend plus intelligent. Ça accroît l'intelligence. Alors en règle générale, les savants disent étudier le kitab wa sunna, ça rend intelligent. C'est ce que disent les savants. Les gens croient que c'est en étudiant je ne sais quoi, la chimie ou. Alors c'est pas haram, attention, hein. Mais les gens croient que c'est avec ça qu'ils vont devenir intelligents. Les savants disent en étudiant le kitab wa sunna, c'est ça qui rend intelligent. Donc, usul fiqh, ça rend intelligent. Usul fiqh. Ça rend vraiment, ça donne de la perception, ça demande. En général, ce sont les gens intelligents qui sont calés dans usul fiqh. Wallahu a'lam, hein, c'est une cause. Après, c'est Allah qui fait tout. Tayyib. Donc on avait vu le jugement, sa définition, sa subdivision. Donc juste pour vous tenir au courant, une petite parenthèse, concernant les contrôles, donc les matières principales, on en a terminé, mais ceux qui sont inscrits dans toutes les matières, il y a les autres matières qui suivent. Donc Inch'Allah Ta'ala, pour les autres matières, petit à petit, on va faire des contrôles. Peut-être la semaine prochaine, on fera contrôle de aqida, de croyance. Ensuite, on fera contrôle de hadith. Ensuite, on fera contrôle de usul al-fiqh. Et ensuite, on fera contrôle de ulum al-Qur'an. Ne vous inquiétez pas, hein. On fait ça doucement, tranquillement. Pour ceux qui ne se sentent pas avoir une bonne mémorisation ou autre, on est au début de l'enseignement. C'est pour ça que celui qui veut regarder dans le livre pendant les contrôles, il n'y a aucun problème. On appelle ça Kitab Maftouh. Tayyib, Kitab Maftouh, ça se fait. Notamment à l'université en Arabie, Kouliyat Sharia. Hein, on a déjà expliqué, ils le font ça. On appelle ça Kitab Maftouh. On sait pourquoi on le fait, ne vous inquiétez pas. On sait quand on doit le faire, ne vous inquiétez pas. Profitez-en d'ailleurs. Profitez-en d'ailleurs. Profitez-en. Parce que peut-être qu'il arrivera un moment, petit à petit, on va bien s'ancrer dans l'étude de la science et après, il n'y aura plus de Kitab Maftouh. Peut-être de temps en temps, quand ça sera un peu difficile ou quoi. Donc voilà, profitez-en, hein, tant que c'est très, 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 très facile. Naham. Alors, maintenant, nous allons aborder, je crois qu'on avait commencé, hein, on avait commencé à parler, me semble-t-il, hein, faites-moi signe si ce n'est pas le cas. On avait commencé à parler de l'obligatoire. De l'obligatoire dans le cours précédent. On avait commencé à parler du jugement qu'on appelle. Masha'Allah, alaykoum salam. Tamam. Jazakumullahu khayran. On avait commencé à parler de l'obligatoire qui est un jugement. L'obligatoire, donc, C'est le premier jugement qu'on étudie dans les sciences du usul firqa. En tout cas, c'est ce que moi j'ai constaté dans les ouvrages, dans les. Vous verrez que même l'ouvrage de Cheikh Al-Uthaymeen, normalement, si je ne me trompe pas, qu'on va faire à la suite les fondements de la jurisprudence. Pareil, lorsqu'on parlera des jugements, le premier, ça sera l'obligatoire. Wallahu a'lam. Je vais vérifier, on vérifiera, mais il me semble, en tout cas en règle générale, dans les ouvrages des savants, le premier jugement, c'est le wajib, c'est l'obligatoire. Alors, ça ne veut pas dire que forcément il y a un ordre, etc., mais ça commence par l'obligatoire. L'ordre des savants, en tout cas, c'est l'obligatoire. Et wallahu a'lam, même l'ordre. Même l'ordre dans la législation, plutôt les jugements dans la législation, ça commence par l'obligatoire. Donc ça, je vérifierai ça. Je vérifierai ça et on en parlera, inshallah ta'ala, dans le prochain cours. Alors, on s'était arrêté dans le cours précédent sur la différence entre al-fard ou al-wajib. Alors, si vous préférez, pour les francophones, si vous préférez, pour les francophones, il y a deux façons. Il y a deux terminologies pour déterminer, pour dire, appeler, nommer l'obligatoire. Il y a al-fard, pour dire obligatoire, on dit al-fard, et on dit également al-wajib. On va vous donner un exemple. Par exemple, on prend, comme on l'a dit lorsqu'on a fait notre. On l'a fait, il me semble, dans les cours de Tawhid tout au début. On a dit que l'obligation se divise en deux catégories. On a dit l'obligatoire absolu, c'est-à-dire collectif, non collectif, individuel, et l'obligatoire, donc c'est le fardeau. Al-Wajib al-Aini, et le deuxième, Fardo al-Wajib al-Kifai, qui est l'obligation collective, qui n'est pas absolue pour tout le monde. Et bien ça, vous pouvez dire tantôt Fardo Ain ou al-Wajib al-Aini, et vous pouvez dire al-fard al-kifay ou al-wajib al-kifay. Tantôt, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre des deux termes pour dire l'obligation. Alors, à ce moment-là, la question qui se pose, c'est quelle est la différence entre al-fard et al-wajib? Quelle est la différence entre les deux? Alors, on a un détail ici, hein. On va essayer de vous éclairer. Khilaf bayna jumhur wa al-hanafiyya. La divergence, donc il y a une divergence. Est-ce qu'il y a, quelle est la différence entre le fard et le wajib? On nous dit il y a une divergence entre la majorité des savants et la Hanafiya. Alors, il y a une divergence qui se divise en deux positions. Il y a deux positions de savants. N'hésitez pas, hein, à vous manifester si vous n'avez pas compris. sur le fait, sur la différence entre le fard et le wajib, il y a une divergence entre les savants. Il y a deux positions de savants. La première position est là, c'est la majorité des savants. Donc nous, comme on a dit, ici, à l'Institut, on prend la majorité des savants. Pour le moment, c'est plus simple pour vous. C'est plus simple pour vous. Donc on nous dit la première parole, première position, c'est que la majorité des savants, cette majorité, c'est l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed. Donc pourquoi la majorité? Parce qu'il y a 3 sur 4 imams qui ont statué sur la même position. Donc on appelle ça la majorité. Donc la majorité des savants, Malik, Shafi'i, Ahmed, disent qu'il n'y a pas de différence entre le fard et le wajib. Il n'y a pas de différence, c'est pareil. Tamam? Il n'y a pas de différence. Tu peux dire wajib kifayi, wajib fard kifayi. Tu peux dire ça c'est fard et tu peux dire ça c'est wajib, c'est pareil. Ça, c'est la majorité des savants. T'as même? Taïb. La deuxième parole, c'est que l'imam Abu Hanifa, il dit, son madhhab, son école, ils disent que il y a une différence. Le fard, c'est pas comme le wajib. Le fard, il est plus appuyé, il est plus confirmé que le wajib, le fard. Alors la différence entre les deux pour l'école de Abu Hanifa, la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que le fard, c'est ce qui a été confirmé par une preuve incontestable du kitab wa sunna, du Coran, de la sunna, de l'unanimité, et qui est mutawatir, d'une transmission mutawatir. Taïb. Donc ça, c'est le fard pour le Abu Hanifa. Ensuite, vous avez le wajib. Abu Hanifa, lui, nous dit, le wajib, c'est ce qui a été confirmé par une preuve. Une preuve dhanni, c'est-à-dire... une preuve qui n'est pas incontestable. Il nous dit comme l'information, la mono-information, al-khabar wahed, on l'a fait dans Mustalah al-Hadith. Donc on va le voir ça à la suite, dans les cours de Usul al-Fiqh. La différence entre l'information mutawatir, chaîne de transmission multiple qui est infaillible, et chaîne de transmission mono chaîne de transmission à un rapporteur, qui, selon certains savants, nous indique pas quelque chose de d'incontestable. On le verra en temps voulu. On va pas commencer. Ici, ce n'est pas le but du cours. Hein. Ne vous focalisez pas sur ça. Taïb. Alors, On nous dit ici al-radih an al-fard wa al-wajib fi l'istilah shara' la farq baynahuma. Alors ensuite on nous dit, et ça c'est ce qu'on nous a dit, c'est ce qu'on vous recommande ici à l'Institut pour le moment. D'ailleurs même, hein, personnellement, nous c'est notre position. On prend la majorité. Nous on prend la majorité sur ça. Et on dit que la parole prépondérante, donc on nous dit ici, c'est qu'il n'y a pas de différence entre le fard et le wajib dans la terminologie, dans la législation. Il n'y a pas de différence entre les deux. Parce que le wajib, le fait de le délaisser, c'est blâmable. Et c'est également le cas pour le fard. Donc voilà, on a cette position de l'école de l'imam Abu Hanifa. نعم بعد هذا كله هل الخلاف اللفظي لا ثمرات أم أنه معنوي له ثمرات؟ تمام. Alors, on est dans le cours de l'obligation. Alors, on continue. On continue concernant le détail, le cours ici, sur le jugement de l'obligation. Tamam? On continue, inshallah ta'ala. Comme l'école d'Abu Hanifa disent qu'il y a une différence entre le fard et le wajib. Écoutez bien, ils ont donc la position que celui qui délaisse un fard parmi les adorations, alors son adoration, elle est annulée. Son adoration, elle est annulée. Tandis que s'il délaisse un obligatoire, son adoration, elle n'est pas annulée. Comme par exemple le fait de... Il donne l'exemple de la lecture de Sourate al-Fatiha qui est obligatoire pour eux. Hein, dans le madhhab d'Abu Hanifa, ce sont des exemples. C'est obligatoire pour eux, mais ce n'est pas fard. Donc pour eux, celui qui délaisse Sourate al-Fatiha dans la prière, comment on dit, volontairement, sa prière ne sera pas annulée, mais il sera dans le péché. Tandis que la majorité des savants, comme chez eux, il n'y a pas de différence entre le fard et le wajib. Ils disent que celui qui délaisse Sourate al-Fatiha, il n'y a pas de salat pour lui. Sa salat, elle est invalide. Invalide. Donc ça, c'est de la fawaïd pour vous. Hein. C'est pas obligatoire de... C'est dans le chapitre ici, dans notre chapitre de la différence entre l'obligatoire et le fard. C'est des choses bien à connaître. Pourquoi? Parce que l'étudiant en science, vous voyez, quand on survole et on connaît les sciences religieuses, comme ça, on survole. C'est pas pareil que quelqu'un qui connaît en détail. Vous connaissez par exemple aujourd'hui, je vous donne un exemple. Vous venez d'apprendre cette masala ici, ce qu'on vient d'étudier ici. Quelqu'un demain il vient, il vous dit demain. Quelqu'un il vient, il vous dit oui celui qui ne lit pas Salat al-Fatiha dans la prière, il a juste un péché, mais sa salat, elle est valide. C'est ce que disent les ulama. Quelqu'un qui connaît un peu la science en surface, qui il pourra, il sera plus quoi dire. Il pourra pas, il connaît pas cette masse. Ah là, il la connaît pas. Mais quelqu'un qui est ancré dans la science, qui étudie les sciences religieuses comme on le fait ici, etc. Maintenant, vous connaissez ça. Vous lui répondez, ça, c'est l'avis qui n'est pas majoritaire. C'est l'avis d'Abu Hanifa et c'est l'avis qui n'est pas majoritaire. L'avis majoritaire, c'est que celui, c'est qu'il n'y a pas de, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la salat illa bi ummul kitab. Ou alors la salat liman lam yaqra surat al-Fatiha. Al-Muhim, le hadith qui dit pas de salat sans la Fatiha. Ça indique que c'est un pilier de la prière. Tamam? Taïb. C'est un exemple hein, que je vous donne concernant les sciences religieuses. Aqsam al-wajib bi'itibarat muta'addida. Taïb. Donc ça, on l'a déjà vu, ce qu'on va nous dire ici. Hein, on l'a déjà vu déjà. La subdivision du wajib, il y a plusieurs subdivisions. La première ici, on nous parle de le wajib, comme on l'a dit, aini, et le wajib el-kifay. Ça, vous connaissez. Normalement, ça, vous connaissez. Alors, le wajib, l'obligation individuelle, le mu'in. On nous donne des exemples. C'est celle que nul autre ne peut faire à ta place. Donc, pourquoi on l'a appelé, ils l'ont appelé comme ça, al-wajib al-aini ou al-fard al-ain? C'est parce que c'est individuel, il n'y a personne d'autre qui il peut le faire à ta place, c'est obligatoire pour toi. Alors on nous donne un exemple ici, comme le fait de prier ou de jeûner, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Et on ne dit pas, oui, mais si j'ai pas jeûné, quand je serai mort, mon fils, il peut jeûner pour moi ou quoi. Non. On ne prend pas cette méthodologie. On parle de la base. On parle de la base. L'exception ne viendra pas changer la base ici. Tamam? Donc, je vais répéter, au cas où il y en a qui noteraient les définitions. La définition de l'obligatoire individuel, hein, on appelle ça fardu ayn ou al-wajib al-ayni, individuel, absolu, hein, c'est celui que autre que toi ne peut accomplir à ta place. Vous pouvez le formuler autrement si vous voulez, hein. Du moment qu'il y a le sens. Vous pouvez dire par exemple, c'est ce que seul tu peux accomplir pour toi-même ou Huwa alladhi la yaqum, c'est celui que autre que toi ne peut accomplir à ta place. Le jeûne, la prière. Alors, il y a une autre définition. On nous donne une autre définition. Donc, vous voyez, c'est. Je ne sais pas si je l'ai dit au début. Hein. Je ne sais pas si je l'ai dit au début. Au début, lorsqu'on a ouvert l'institut, on a commencé les cours. Mais je l'ai dit, mais pas tout ce que je vais dire. Que j'ai toujours eu un projet. Et je pense que personne ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai remarqué que pour le Talab el-Ilm, ce serait vraiment, vraiment, mais quelque chose de super. c'est de faire un comme un dictionnaire des définitions. Définition dans la législation. Mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Donc, si quelqu'un à l'institut, Mashallah, Mashallah, wafikum barakallah, subhanallah. Si quelqu'un à l'institut est capable, toutes les définitions qu'on voit, Mashallah, d'accord, Inch'Allah. Mashallah. Vous inquiétez pas, vous, on va vous solliciter, Mashallah, pour les PDF, pour les. Bientôt, Inch'Allah, on va vous solliciter. Inch'Allah, Ta'ala. Ensuite, il y avait quoi d'autre comme message pendant que je parlais? Je ferai plaisir, je vais l'envisager comme. Mashallah, Tayyib, Inch'Allah. Tayyib, Inch'Allah, si vous pouvez. Notez toutes les définitions à l'institut qu'on va mentionner. Et ensuite, mashallah, on a notre autre étudiante qui pourra nous faire le PDF. Bon, ça ne sera pas tout de suite, ça sera au bout d'un certain moment. On aura réuni, mais un bon. De quoi faire un petit livre. Hein. Je pense que si on le fait, ça va être quelque chose de pour les étudiants, ça va être du lourd parce que ça fait des années moi que j'y pense et je n'ai pas eu l'occasion. Je n'ai pas eu l'occasion. Donc si quelqu'un à l'institut, donc là on a une étudiante qui s'est proposée, toutes les définitions, notez-les. Et puis on fera Inch'Allah Ta'ala. Fisabilillah, hein, on pourra faire ça pour les étudiants, Inch'Allah Ta'ala. Oui, deux étudiantes, Naram, se sont proposées. Hein. Tout à fait, ça y est, on a dit. Hein. Il y a une étudiante qui a dit qu'il allait noter les définitions et une autre qui s'est proposée pour le PDF. Ça y est, c'est noté. Barakallahu fik. C'est noté. Tayyib. Alors. Tayyib. Alors, on continue. On a une deuxième. De toute façon, les définitions, j'irai toujours doucement et je répéterai toujours plusieurs fois les définitions. Et n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à demander. Hein. Ou ce que vous pouvez faire. Si par exemple on est dans un cours, on est en plein dedans, on ne peut pas s'arrêter ou quoi. Ce que vous pouvez faire, là il n'y a aucun souci. Hein. Si vous avez un portable ou quoi, vous m'enregistrez en train de dire la définition. Et plus tard, vous pouvez. Ça, je vous donne la permission, il n'y a pas de souci. Je vous donne la permission, il n'y a aucun souci d'enregistrer. Moi, je fais ça avec les ulama. Hein. Moi, je fais ça. Hein. Hop, je prends mon portable, tac. Je dis, comme j'ai pas le temps, je suis en train de lire, je suis en train de faire autre chose ou quoi. Hop, je l'enregistre, je le mets de côté et après je reviens. Hop, je note la définition. Ou... Faut avoir des techniques dans le talab al-ilm. Si t'as pas de technique, c'est. Alors, des fois, il faut compenser tes. Bon, c'est pas pour tout le monde, mais des fois. Il y a des techniques de talab al-ilm pour compenser nos certaines lacunes ou pour compenser, par exemple, on n'a pas le temps là, je le ferai après, tac, j'enregistre ou je le marque sur un cahier. Il y a des techniques de talab al-ilm. Il y a des techniques, sinon tu vas oublier plein de choses, tu vas omettre plein de choses, tu vas. Il y a des techniques de talab al-ilm. Vous voyez? C'est. Et ça prend. Hein. Et ça prend. Vous voyez que nous, on est dans un institut des gens de la Sunna. On n'est pas dans un institut. Alors, dans l'enseignement, il y a de l'enseignement académique, mais il y a beaucoup. Comment dirais-je? Du talibul ilm. Du talibul ilm, c'est-à-dire, on n'est pas là, on fait que de la lecture et voilà. On donne les fawaïd, on donne les techniques, on. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses et... Alors, on ne fait pas de la concurrence ou quoi que ce soit, mais je ne sais pas si vous allez le trouver partout, ça. Et c'est ça le prêcheur-éducateur. Le prêcheur-éducateur, il vient pas, il fait juste la lecture de son cours. Voilà, ça se divise en trois. Voilà, assalamu alaikum. Vous savez bien, je vais vous donner un exemple, et ça, vous le savez, que lorsqu'on était à l'école, quand on était petit, ou même que peut-être parmi vous, certains sont encore à l'école ou quoi, il y a une différence entre le maître ou la maîtresse, plutôt l'enseignement ou l'enseignant ou l'enseignante. Celui qui vient, il veut juste avoir sa paye et il vient, il met au tableau, t'as noté, t'as pas noté, il y a 1 heure, dès que ça sonne, il part. Et celui qui s'investit avec ses élèves, qui s'investit, il veut que tu réussisses. Alors vous avez bien appris ça? Viens dans un, à la fin du cours, je vais t'expliquer. Il s'investit, il veut que tu réussisses. Il te donne les techniques, il te fait faire des exercices. Il y a une grande différence. Eh bien, l'enseignement des ulama, c'est ça. Vous avez vu dans le comportement, les techniques qu'ils donnent, les... franchement, si t'as pas, comment dirais-je, avec les ulama, si t'as pas, comment qu'on dit, pas percuté, mais si t'as pas, c'est pas rentré dans ton cœur, c'est que t'avais un casque sur les oreilles ou t'avais parce que leur... Leur méthodologie, elle est adib. Elle est vraiment adib. En ce moment, j'écoute, j'ai souvent des vidéos qui, comme ça, qui m'arrivent de Cheikh Al-Usaymi. C'est très court, 2, 3, 5 minutes. Wallah, par Allah. Lui, Cheikh Abdelazak Al-Badr, sont des éducateurs. Wallahi ajib. Surtout, Cheikh, il a une. Cheikh Al-Usaymi, j'ai remarqué, il a une méthodologie éducateur. Comment dirais-je? Je vais vous donner un exemple. Il te corrige il corrige les gens en disant faut pas faire ça. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est incroyable. Incroyable. Je vais vous donner un exemple, je crois que je vous l'avais même traduit, hein, ça. Je ne sais pas si, où je devais. Allah al-Musta'an. Dans une de ses interventions, Cheikh Al-Usaymi, il dit, concernant le comportement, il dit, aujourd'hui, le comportement chez les étudiants, il s'est perdu. Ça s'est perdu. Tu les vois, ils viennent s'asseoir, pendant le cours, il prend son téléphone, il te tourne le dos, il part, il jette des mouchoirs, des verres par terre, en plastique. Hein. Il se lève en plein cours, il part. Il sort après son enseignant, après le cheikh. Pardon, excusez-moi. Il sort avant le cheikh de la mosquée. Vous voyez, si le savant, il ne vous dit pas toutes ces choses-là, il ne vous met pas en garde, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre tout ce qui est blâmable, pas bien, les mauvaises parures, les choses mauvaises, si on n'en parle pas, comment les gens vont se corriger? La plupart des gens qui font du monkar, il y a beaucoup de gens hein, qui font du monkar, qui ont un mauvais comportement ou quoi, pour eux c'est normal. L'injustice, il y en a pour certains, c'est normal. Même si tu lui dis je te pardonne pas, Yawm al-Qiyamah, pour lui c'est... Écoute, moi, j'ai pris mon haqq. Hein. Wallah al-musta'an. Une fois, j'ai travaillé 1 mois chez un patron. À la fin, il m'a dit, je te paye pas. Je lui ai dit, c'est pas grave, on est deux musulmans, on a rendez-vous le jour de la résurrection, c'est pas grave. Il m'a répondu, t'as qu'à monter au ciel et redescendre. Un frère, hein. T'as qu'à monter au ciel et redescendre, c'est comme ça. Je lui ai dit, juste sache qu'il y a un musulman qui a rendez-vous avec toi le jour de la résurrection. Alors moi, je n'ai pas forcément dit ça pour, en fait, plus pour le toucher et lui faire craindre Allah ou Ta'ala. Quelqu'un qui te dit rendez-vous Yawm al-Qiyamah, Je vais frapper chez lui à minuit, je vais dire, écoute, on va s'asseoir, mais je partirai pas tant que tu m'as pas excusé. Normalement, c'est ça, si tu crains Allah, quelqu'un, il te dit, je pardonne pas ou quoi. Non, les gens, c'est normal. Ittaqillah, crains Allah. Mais pourquoi tu me dis ça? Crains Allah, toi? Wallah al-musta'an. Wallah al-musta'an. Aujourd'hui, c'est... À la kulli hal, comme vous le savez, ça sera de pire en pire. Quelqu'un, il te dit Taqillah. Tu dis Amin. Crains Allah. Plutôt, Ittaqillah. Ça doit te toucher le cœur. Crains Allah. Inch'Allah. On essaye de craindre Allah le plus possible. On ne prend pas ça comme une insulte ou. Crains Allah, c'est. Vous préférez quelqu'un il te dit crains Allah ou il t'insulte ou il te. Wallahul Donc j'en étais où? Naham, la méthodologie des savants. Wallah, et si vous allez dans un institut ou si vous allez dans une mosquée ou vous allez n'importe où. On ne vous transmet pas cette méthodologie, on ne vous transmet pas cette science des savants, c'est une perte de temps. Comme chez les frères musulmans, par exemple, vous allez aller dans des instituts, dans des... Ça critique les gens de la sunna. Tu vas ressortir avec des choubouhat. Wallahul musta'an. C'est pas marrant. Hein? C'est un rire jaune, comme on dit. Tu vas ressortir avec des ambiguïtés. Ça insulte les gens de la sunna. Ils ont des choubouhats de takfiri, puisqu'ils parlent sur les gouverneurs. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays musulmans qui sont tombés par la cause des frères musulmans. Il faut le savoir, les gens ne savent pas. Les kofars, ils ont utilisé les frères musulmans. Sortez, les femmes, les hommes, manifestez, sortez. Au Yémen, ça a commencé comme ça. Un pays qui était tranquille sur la sunna. Subhanallah. Les frères musulmans, sortez, faites des manifestations. Les femmes, elles sont sorties. Étonnant pour le Yémen. Elles sont toutes avec le niqab, etc. Étonnant pour un pays comme ça. Les femmes, elles sont sorties. Les hommes, les manifestations, ça a commencé. Ils ont retourné l'État, ils ont tué le président, etc., etc. Les chiites, ils sont venus, ça a été la guerre. Voilà. Wallahu a'lam, c'est parti des frères musulmans. La Syrie, pareil. Peut-être que certains de vous ne savent pas, mais ça a commencé par des manifestations. Les frères musulmans manifestaient, nanani, nanana. La méthodologie des salafs, il n'y a que ça qui paye. Et vous verrez. Vous verrez. Pourquoi il n'y a que ça qui paye? Écoutez, la méthodologie des salafs, c'est la méthodologie des prophètes. Des prophètes. Les prophètes, Allah Ta'ala, il les a toujours secourus. Donc, ça ne va pas changer. Allah Ta'ala, aujourd'hui, va secourir qui? Aujourd'hui et dans le futur. Il va secourir qui? Ceux qui suivent la tradition des prophètes. Et aujourd'hui, il y a qui? C'est les gens de la sunna, c'est les ulama de la sunna qui suivent la tradition des prophètes, puisqu'ils sont les héritiers des prophètes. Donc on va plus loin encore. Qui sera secouru comme voie? C'est la voie des salafs. Comme on l'avait dit dans un autre cours, les kofars, ils n'ont pas peur d'établir des frères musulmans, des khawarij, des... Ils se servent d'eux, ils les utilisent. Mais ils ont peur des gens de la sunna. Parce que eux, contrairement à nous, ils connaissent l'histoire à tarikh. Ils connaissent l'histoire et ils en tiennent compte. Contre nous. Alors que nous, on devrait utiliser l'histoire, notre histoire, l'histoire de l'islam, pour pour notre réussite. Mais on est tous là avec nos divisions, nos... Inch'Allah, de toute façon, j'ai un peu dévié du cours, mais c'était la fin, c'est la fin du cours. Dans le prochain cours, Inch'Allah, là, on continuera sur l'obligatoire, hein, bien entendu. Alors, que je mette un marque-page, hein, pour pas que dans le prochain cours, je dise on en était où, on en était où. Il y a des choses très intéressantes dans ce cours du Wadib. Vous allez voir à la suite, il y a des choses très 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 intéressantes. Même moi à l'époque, j'ai staffide avec ce cours. Je vous le dis. Alors on en était où? Voilà. On en était là. Excusez-moi, pouvons-nous avoir juste la définition de al-fard al-kifay? D'accord. Oui, c'est vrai que je crois que. Eh oui, subhanallah, je ne l'ai même pas. Ah, il faut le dire, c'est bien. La deuxième définition, je ne l'ai même pas donnée. En fait, on n'avait pas fini. Alors, la première définition, on a dit, hein, c'est du fardu'in. C'est celui, c'est celui dont personne ne peut le faire à sa place. On a une deuxième définition, toujours fardu'in. Ma talabahu shari'a, c'est ce que demande la législation à titre individuel. Sans en avoir le choix. Sans en avoir le choix. Alors, on a déjà fait des cours précédemment en expliquant que dans les jugements légiférés, il y a des jugements comme le wajib, l'interdit, etc., où tu n'as pas de choix, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de choisir je le fais, je ne le fais pas. On parle au niveau de la définition de la législation. Hein. Et on a dans les définitions des jugements où tu as le choix. Là, par exemple, quelque chose qui est permis ou quelque chose qui est recommandé, tu as le choix de le faire ou de ne pas le faire. C'est pour ça qu'ici, dans cette définition, il nous dit que dans la définition du wajib, c'est ce qui est demandé dans la législation à titre individuel sans en avoir le choix. Voilà. Ensuite, ta'rifuhu huwa al-wajib la bi'inihi ka wahida min khisal kafara. Alors moi je vais vous donner ici huwa al-wajib la bi'inihi ka wahida min khisal al-kafarat fi qawlihi. Moi je vais vous donner une définition du fard al-kifay. C'est une qui est la plus répandue chez les savants, celle qu'on entend le plus souvent. Iza ktafa ba'd سقط أو سقط الوجوب على الآخرين. Définition de l'obligatoire qui est collectif, qui n'est pas absolu. Et avec la définition, on comprend, comme on vous a déjà expliqué, avec les définitions, on comprend mieux la signification de quelque chose. Alors, traduction de la définition. Du wajib al-kifay. Si une partie de la communauté s'en charge, si une partie de la communauté s'en charge, l'obligation tombe pour le reste de la communauté. L'obligation tombe pour le reste de la communauté. L'obligation tombe pour le reste de la communauté. Alors, des exemples, on a, je pense qu'on en a déjà parlé, des exemples Salat el Janaza, s'il y a un groupe des musulmans qui s'en charge, c'est pas obligatoire absolu. La science du hadith, par exemple, c'est pas obligatoire absolu s'il y a une partie de la communauté, des savants, ils s'en occupent. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans doivent apprendre dans l'absolu la science du hadith. Là, ça sera plutôt pour les étudiants, pour les réservés aux étudiants, etc. Parce qu'il ne faut pas non plus que les choses se perdent, attention. T'as même. Donc voilà pour aujourd'hui. Continuera, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours. Je laisse. Alors, il y a un frère qui a posé sûrement une question. Je vais laisser la Zoom ouverte parce que notre frère Tayeb, il est malade. Il n'a pas pu aujourd'hui être là. Il a, comme moi, hein, l'allergie, chaos. Donc, je laisse la Zoom. Qu'Allah le guérisse et qu'Allah nous guérisse. Hein, amin. Je laisse la Zoom ouverte, comme ça, voilà, je n'aurai plus qu'à revenir et les gens n'auront qu'à entrer. Assalamu alaikum, moi je serai motivé avec mes notes, Inch'Allah, mais il me faudrait les PDF support aussi. D'accord, papa. Tamam Tayyib. Il y a papa aussi qui veut prendre des notes. J'avais pas vu, hein, désolé, hein, papa. D'accord, Inch'Allah. Tayyib. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dans une vingtaine de minutes إن شاء الله تعالى on se revoit pour le cours de Tawhid